Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. On va sourire et s'intéresser et être curieux avec nos amis Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Mais oui, merci beaucoup Christelle. Tout ça en une seule émission et en une heure.
C'est votre défi.
C'est notre défi. Et on va le relever. Bienvenue à toutes et à tous dans votre cabinet de curiosité sur RTL. Comme le disait Christelle, on se cultive dans la bonne humeur avec Anaïs Bouton.
Bonjour Thomas, salut. Bonjour. Les curieux. On vous propose deux grands thèmes comme chaque jour. Et tout à l'heure, on va découvrir la vie de Molière. Est-ce qu'il est vraiment mort sur scène? Est-ce qu'il a épousé sa propre fille? Est-ce que c'est Corneille qui a écrit une vingtaine de pièces pour lui? Réponse vers 14h30.
Tout de suite sur RTL, on vous emmène au cinéma l'histoire des films cultes dans la curiosité.
RTL.
Bienvenue.
Thomas Hugues.
À Jurassic Park.
Anaïs Bouton.
La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. C'est à vous ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Allez, aujourd'hui, on s'installe dans un fauteuil rouge avec du pop-corn. Non, pas avec du pop-corn.
Ah non,
Thomas,
vous allez faire un boucan du diable avec du pop-corn. Non, ça m'agace au cinéma.
La semaine dernière est sortie Astérix. On s'est dit, on a parlé cinéma. Puis avec toute l'équipe, on s'est dit, mais alors, les films cultes, qu'est-ce que
machin, ça a été un jeu de dingue. On y a passé toute une après-midi. Oui.
Toute la semaine. Donc ça y est, on s'est dit, on fait les films cultes avec vous, Guillaume Évin. Vous êtes journaliste. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, Thomas, je vais vous proposer un petit jeu à vous et à tous les curieux. Je vous donne un indice sonore et à chaque fois qu'on parle d'un film, et vous devinez.
Je pensais qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
13 ans. Oh. Je crois avoir reconnu la voix de Sophie Marceau.
Alors, effectivement. Qu'est-ce que c'est que
Guillaume
ce
Eva.
Film
C'était
Guillaume
La Boum.
Mais
la
oui,
Boum,
la
Claude Pinoteau, 1980. Qui a été d'ailleurs le méga succès de l'année, même si au départ, on a frôlé le flop.
C'est devenu quoi, hein? Alors on va parler d'abord du succès, puis ensuite du flop. C'est devenu un phénomène de société, La Boum?
C'est devenu un phénomène parce que justement, Sophie Marceau a été la jeune fille à laquelle ont voulu s'identifier presque tous les ados de France à cette époque. Elle a surgi comme ça dans notre univers. Moi-même, j'avais à peu près l'âge.
J'avais pile poil son âge.
J'étais comme un dingue. Les Stan Smith, le Sac
US. Comment elle avait été sélectionnée d'ailleurs, Sophie Marceau?
Alors, ça a été une longue histoire. Parce que, évidemment, tout reposait sur le choix de l'actrice. Et donc, Gaumont a auditionné des centaines de jeunes filles.
Dont des connues. Qui, par exemple?
Emmanuel Béart, Christiana Reali.
Mathilde Amay,
exactement. Et mais finalement, celle qui a décroché la timbale, c'est une inconnue, une certaine Sophie Maupu.
C'est son vrai nom. Comment elle choisit Marceau, vous nous le rappelez?
Et alors, heureusement, on lui a dit que Sophie Maupu, ce n'était juste pas possible dans le milieu.
Oui, on aime bien tous les Maupu, mais bon, ça passe moins au cinéma peut-être.
Et avec Alain Poiret, le producteur, ils se sont penchés sur une carte de Paris et ils ont regardé les avenues autour de l'étoile et il lui a dit Marceau, ce serait pas mal. Et elle a dit oui, super, parce que je garde comme ça mes initiales SM. Alors c'est sûr que Sophie Champs-Élysées ou Sophie Grande Armée, c'est moyen. Ouais. Mais Sophie Marceau, ça claque bien.
Ouais, après une manif des Gilets jaunes, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu la même démarche. Guillaume Évin, vous dites, c'est un film culte, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans la curiosité. En même temps, ça a failli être un flop. Pourquoi?
Le premier mercredi, 4000 entrées à peine. Là, les producteurs s'inquiètent. Et puis, à l'arrivée, donc 1000 fois plus de 4 millions. Parce que justement, le film, heureusement, a pris le temps de s'installer. Mmh. Et puis le bouche-à-oreille a pris le relais.
C'est rare, hein, ce genre. Maintenant, ça n'existe plus, ce genre d'évolution pour un film.
On peut penser...
C'est dès le mercredi qu'il est planté
ou
pas.
Oui, c'est vrai qu'on peut penser que La Boum, aujourd'hui, n'aurait peut-être pas la même mensuétude et serait vite éjectée des écrans.
Comment Danielle Thompson, la scénariste du film, a eu l'idée du scénario?
Danielle Thompson, la fille de Gérard Oury, s'est tout simplement inspirée de sa propre histoire. Elle a puisé pas très loin. Elle a regardé chez elle parce qu'un soir, elle est rentrée et elle a vu sa fille Caroline, 14 ans, qui organisait une boum sans l'avoir prévenue. Elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Et ça lui a donné donc l'idée du scénario.
Allez, on passe à un autre film culte sur l'adolescence. Je suis sûr que ça aussi, ça va vous rappeler quelque chose.
Qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan, l'acteur. Et qui est vice-président? Jerry Lewis.
ça c'est trop facile, Guillaume Évin, c'est
Retour vers le futur.
Évidemment, avec le docteur, comment il s'appelle, Emmett Brown, c'est ça, c'est le nom du docteur.
Emmett Brown, et le héros c'est Marty McFly. Ouais.
Alors là aussi, on est vraiment dans ce qu'on... Il y a eu un débat là-dessus.
Ah là là, je me suis fait lyncher, parce que pour moi c'est pas du tout un film culte.
Ah non, on est 100%, futur, 100%.
Alors François Latouche, François Touchard, le réalisateur, dit Latouche, et nos deux journalistes m'ont dit que j'allais passer par la fenêtre.
William et Bastien étaient très en colère. Donc c'est un film culte.
C'est un film culte parce que, alors, c'est un film assez malin, car il réunit à la fois le côté comédie familiale et en même temps saupoudré un peu de science-fiction avec cette théorie, enfin cette thématique du retour dans le passé. Et ça, on adore. Donc le mix fonctionne super bien. Vous prenez une bande-son assez canon à l'époque avec un tube Huey Lewis and the News. Vous prenez un acteur qui avait le vent en poupe, donc Michael J. Fox.
Ça devait pas être lui d'ailleurs.
Et ça ne devait pas être lui. Mais c'est comme souvent en fait, il y a des comme ça des retournements de casting au dernier moment et qui vont profiter au film. Parce qu'en fait, celui qui aurait dû tenir le rôle de Marty, c'était Eric Stoltz. Ouais. Il avait tourné.
Mais qu'on connaît plus du tout.
Non,
maintenant.
On connaît plus du tout. Et le problème, c'est qu'il n'était pas du tout drôle.
Il a tourné 6 semaines, non, c'est ça ?
Voilà. Et au bout de 6 semaines,
Ils ont jeté les rushs, quoi.
Exactement. Même c'était une version montée. Et lorsque Spielberg, qui était coproducteur, a vu les premières scènes montées avec Zemeckis, le réalisateur, ils se sont concertés. On dit ce n'est pas possible. Ça ne va pas. Et ils ont rappelé Marty McFly, donc le Michael J. Fox. Pourquoi ? Parce que Michael J. Fox était au départ pressenti, mais il avait été retenu parce qu'il tournait une série télé. Et heureusement, ils ont supplié le producteur. Même l'un des scénaristes avoue qu'il aurait été prêt à danser nu sur la table pour l'obtenir. Il a réussi à le faire libérer de son contrat.
À quoi ça tient un succès ?
À quoi ça tient ? Allez Thomas, dans quelques instants, on va atteindre des niveaux de culte rarement atteints.
Le déclic, faut que je le déclic là-dedans, il y a un déclic. Mais quel déclic ?
À tout de suite sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Mesdames, je vous présente Monsieur Cruchot, ma belle-mère et ma femme.
Oh, enchantée, Madame la Tudor.
Oh non, Cécilia, si vous préférez.
Cécilia.
Je préfère Madame Gerbert.
La curiosité est un vilain défaut.
Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
Sur RTL.
Comme Indiana Jones, on est dans notre salle de cinéma sur les traces des films cultes avec le journaliste Guillaume Évin, auteur de Cultissime chez Duno. Alors, je vous remets un petit extrait, Thomas, vous avez reconnu ça ?
Josépha, vous êtes sauvé ! Je suis là, mon petit lapin, ma petite biche. Attendez, il vous a vraiment fait la cour ?
Très adroitement d'ailleurs.
Oh, le salut !
De Funès, évidemment. Alors, il y a tellement de films avec lui de Funès. On est dans le gendarme à Saint-Tropez, c'est
le
ça
Le gendarme de Saint-Tropez, oui, 1964. Mmh. Bon, on a tous nos faiblesses, hein. C'est vrai, il faut bien confesser parfois. bon, là, j'ai été obligé de mettre un nanar, mais on l'adore, voilà.
Alors, à 50 ans, il décroche la timbale, là, Louis de Funès.
C'est vraiment le rôle avec lequel il va peaufiner le personnage qui fera ensuite les délices du box-office, puisque... Il peaufine cette idée du personnage exaspérant qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc il sait être obséquieux quand il le faut, mielleux.
C'est dans ce film-là qu'il crée ce,
voilà,
ce personnage.
Il crée ce Louis de Funès que l'on va connaître par la suite.
Ça fera près de 8 millions d'entrées, première place au box-office. Comment naît l'idée là, de gendarmes improbables à Saint-Tropez ?
L'idée est assez improbable, effectivement, puisque c'est Balducci qui était attaché de presse et qui d'ailleurs avait défendu des films de Louis de Funès, qui se retrouve en fait en villégiature, en repérage du côté de Saint-Tropez. Et puis, il lui arrive une mésaventure, il se fait dérober son matériel photo et sa mallette dans sa voiture décapotable. Donc, il court à la gendarmerie, comme le ferait n'importe qui. Et puis, la surprise, il tombe sur un fonctionnaire un peu ventripotent qui est en train de déjeuner, qui lui fait comprendre que bon, bah, il n'a pas que ça à faire.
C'est pas le bon moment.
Voilà, il faut repasser plus tard. Et là, il se dit, mais je c'est incroyable. Et il rentre, il raconte la scène de Funès qui lui dit, mais il y a matière à faire un film. Voilà, et c'est comme ça qu'il
s'y met tout de suite. Ils vont commencer à écrire.
Et ils se mettent tout de suite à l'écriture du scénario.
À quatre mains, ils écrivent ensemble.
Alors, de Funès a aidé, mais c'est surtout Balducci qui a contribué.
Est-ce que les producteurs, Gérard Bétou et René Pinière, croient beaucoup dans le film ou pas du tout ? Est-ce qu'ils donnent juste un petit billet pour faire le film ?
Ah, c'est un peu ça. Ils sont pas très très généreux. Ils n'y croient pas. D'ailleurs, ils disent, on va prendre de Funès et des ringards. Voilà.
C'est sympa pour les autres.
Voilà, merci pour eux. Ouais. Bon, et puis heureusement, les ringards vont leur donner tort.
D'ailleurs, je crois que Galabru l'apprendra par la suite, cette expression.
Exactement.
Et alors, il saura qu'on l'a appelé ringard.
Ils sont à la bourre, c'est ça? Parce que De Funès a d'autres engagements?
De Funès a un planning de folie, puisqu'il enchaîne en fait avec Le Corneau et avec Fantomas. Donc il a un été très très bousculé, donc les prises de vue démarrent je crois le 5 juin, mais tout doit être bouclé pour le 14 juillet.
Est-ce qu'il y a une part d'impro dans ce film? On a l'impression que tout est tiré au cordeau, les répliques, etc. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation?
Quasi pas. En fait, il donne l'impression parfois d'improviser, mais toutes les scènes étaient bien bordées. Ça c'est quand même aussi le génie de Funès et Galabru, c'est de laisser croire qu'il y a beaucoup d'impro, mais en fait non.
Il y a par exemple une petite partie de pétanque.
Vous ne jouez plus. Ça suffit. Regardez-moi là. Je vous l'ai dit sans haine, mais vous me le paierez très cher. Mais je le recracherai.
Mais moi, le garde à vous, mais me fait rire à chaque fois, je suis super client.
Bon, dans quelques instants, les curieux, la France a peur. Et je dis la France, je suis gentil, le monde est terrorisé. Vous vous souvenez?
Ça, c'est un genre que je n'aime pas trop au cinéma, les films qui font peur.
Eh bien, on va vous raconter l'histoire maudite d'un tournage maudit, tout de suite.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons.
La curiosité est un vilain défaut. Sur RTL.
Toi, tu creuses.
La grande vadrouille, Pretty Woman, Le Bon, la Brute et Le Truand, quelques-uns des films cultes qui sont sortis comme ça spontanément quand on a fait un mini-sondage dans l'équipe de La Curiosité pour savoir quels sont vos 10 films cultes. Comme le disait Pascal Praud tout à l'heure qui a passé une tête dans le bureau, si vous ennuyez un dîner, vous lancez ça comme thème de conversation et c'est parti pour une heure. Ça nous a donné envie d'inviter Guillaume Évin qui publie Cultissime, donc ces films mythiques parmi lesquels le film qui fait peur. Rien que la musique, déjà, on commence à frissonner. C'est quel film, Guillaume Évin?
L'Exorciste.
L'Exorciste. Moi, je ne suis pas fan de ce genre, je le dis clairement. Déjà, qu'est-ce que ça provoque en salle à la sortie de l'Exorciste? Qu'est-ce qui se passe?
Syncope, évanouissement, cri de terreur, beaucoup de femmes hurlent. Parce que
on est à quelle époque?
On est en 73. Qu'en fait, on n'est pas habitué à ce genre de film. Parce que justement, on n'est pas dans le film d'horreur sanguinolent avec jet d'hémoglobine. Ce n'est pas ça. Là, il y a un climat. Et surtout, pour la première fois, on montre que peut-être l'enfance innocente peut être pervertie par le mal absolu.
C'est ça le...
Et ça glace d'effroi l'Amérique.
La base du film, c'est quoi? Moi, je ne l'ai pas vu. Ça raconte quoi?
La base, c'est tout simplement une jeune fille, 13 ans, Megan, qui est possédée par le démon. Sa mère fait venir un exorciste. Et là, tout dérape.
L'idée du scénario vient d'où, d'ailleurs?
L'idée du scénario, c'est un certain Blatty qui avait été intrigué par le cas avéré d'un jeune homme, un certain Robbie du Maryland, qui à la fin des années 40 avait été possédé par le démon. On avait même été obligé de l'hospitaliser, il était sanglé dans son lit et on avait fait venir des exorcistes et l'affaire avait fait grand bruit. Et puis donc 20 ans après, il travaille cette histoire, il en fait un livre qui va devenir un énorme succès, gros best-seller. Et puis, il réussit à vendre le scénario à la Warner. Et
qui va réaliser le film? Pardon, Anaïs.
C'est William Friedkin. Mais au début, ça ne devait pas être lui, parce que c'est un jeune réalisateur, on n'y croit pas trop. Mais heureusement pour lui, il a eu la chance de sortir un énorme succès qui va être...
Juste avant, c'est ça?
Voilà, juste avant, qui va être French Connection.
Oui, voilà.
Ça rassure les studios. On sait qu'il est bankable, comme on dit dans le milieu maintenant. Et donc, on lui ouvre toutes les portes et il peut réaliser ce film parce qu'il a adoré.
Et le village, n'importe quoi, je suis complètement tournée.
Le village, c'est
le
film de Night Shyamalan, qui est pas mal, qui fait peur aussi, si je me souviens.
Non, le tournage a été extrêmement éprouvant.
Tournage très éprouvant pour tout le monde. Friedkin, assez malin, instaure un climat un peu de terreur. Donc, il va congeler physiquement tous ses acteurs en baissant le thermostat.
Oui, pour qu'ils aient la fumée qui leur sorte de la bouche quand on parle.
Exactement.
Vous remarquez, quand on est arrivé dans le studio de l'actualité tout à l'heure,
c'est la même température.
Moi, j'ai fini par retirer l'écharpe, mais Manet, c'est toujours un bon manteau.
Il y a une série de on va dire, d'événements un peu suspects. Par exemple, le plateau est ravagé par un incendie qui s'est déclaré le dimanche. Or, le plateau était censé être fermé. Il y a un des techniciens qui aura les orteils des pieds brûlés et même sectionnés. Celle qui joue la mère, Ellen Burstyn, en fait, se prend les pieds dans un câble, tombe sur le dos et après est immobilisée et doit porter un corset. Justement, à propos de corset, la petite Linda Blair, là, qui joue la possédée, était harnachée dans un corset qui était actionné par une console à distance. Sauf qu'évidemment, elle était secouée de spasmes et la pauvre avait très très mal au dos.
Ben, on imagine.
Bon,
oui.
Voilà, donc il y avait une drôle d'ambiance.
Donc il y a la volonté du réalisateur, plus des faits de tournage qui créent peut-être le mythe du film avant même qu'il sorte. Est-ce que c'était connu du public qui
pas
avait
tant que pas ça, tant que ça. Pas tant que ça. Et puis après le box-office fait le reste.
Bon, allez, autre film culte, c'est parti. C'est trop facile. 4 notes sur tous les tons,
ouais, c'est ça.
Sur tous les tontons, sur tous les tontons flingueurs. On vous raconte l'histoire du film dans un instant sur RTL.
RTL.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
La curiosité est un vilain défaut.
Oh, le con, Vincent, mais t'es malade.
Merde, quelle chérie. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin.
Mais pourquoi t'as fait ça, putain?
Mais je sais pas, c'est un accident.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Toujours dans votre curiosité, avec Guillaume Évin, le journaliste, on parle de vos films cultes.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Ça c'est
génial, c'est les tontons flingueurs.
Ça fait hurler de bonheur, Thomas.
Mais oui, on peut se les passer en boucle. Guillaume Évin, c'est quoi votre réplique préférée du film?
Ah, j'adore la phrase de Maître Folas, Francis Blanche, lorsqu'il dit « C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. » Mais ce film, c'est vrai, c'est un pur bonheur. Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Ça arrive une fois tous les 50, tous les 100 ans, et encore, je pour compter en comptant large. Ouais. Mais c'est incroyable. Toutes
Donc là,
les planètes,
on est quand, là? On est,
on est en 63.
Début des années 63.
Mais toutes les planètes sont alignées, parce que le texte est au cordeau, la mise en scène
qui
est rythmée.
Qui a écrit le scénario?
C'est Simonin. Simonin, c'est un fils d'un fleuriste qui a été journaliste à l'Intransigeant, qui a été ancien chauffeur de taxi et qui écrit quelques romans, et notamment Grisby, en note Grisby en 55. Et ce roman, bref, par des détours, arrive à la Gaumont au début des années 60, et là on propose le film à Georges Lautner. Et Georges Lautner, qui est un jeune réalisateur, qui est à
l'opposé. Parce qu'on est en pleine nouvelle
voilà.
Vague là. Hein.
C'est un peu l'anti-Godard, mais justement, il a compris qu'on pouvait faire une comédie très rythmée, justement en parodiant, mais juste ce qu'il faut, justement, l'univers des barbouzes et des règlements de compte.
Comment ça se passe, ce tournage? Parce qu'en voyant le film, en revoyant le film, moi je l'ai vu, je sais pas, 7-8 fois peut-être, on se dit, ils ont dû se marrer, ils ont dû, voilà, il y a toujours ces... Est-ce que ça dérape? Est-ce qu'ils boivent vraiment des coups dans la scène de la cuisine,
de la
etc.
Alors,
c'est aussi.
Le tournage a été très sympa, il a été bouclé en une quarantaine de jours. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. En fait, l'essentiel du budget était accaparé par le cachet des acteurs. Et pour vous dire, en fait, au départ, la prod d'ailleurs n'y croyait pas tellement, et elle a même fait appel en fait à une société allemande et italienne, d'où dans le générique
des acteurs allemands et italiens, ouais,
notamment
parce que
Sabine
Jean Gabin
Singen,
devait jouer,
Horst Frank, voilà, Jean Gabin devait jouer, et puis monsieur était trop exigeant, il voulait venir avec ses techniciens, bon, et puis ils ont appelé Lino Ventura, et je pense qu'on n'a pas perdu au change.
Ah, fantastique.
Merci beaucoup,
Guillaume Évin, d'être passé dans notre curiosité. On rappelle le titre de votre ouvrage cultissime chez Dunod. Merci infiniment.
Merci, à bientôt.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.